partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Dans le cadre des relations privilégiées entre Canal Académie et l'Alliance française, nous vous présentons une série d'entretiens avec des responsables d'Alliance française dans le monde. Aujourd'hui, destination Argentine. Nous avons le plaisir d'accueillir Yann Lorvaux, le délégué général de l'Alliance française de Paris en Argentine. Monsieur Lorvaux, bonjour.
Bonjour.
Si vous le voulez bien, je vous invite à nous faire dans un premier temps une sorte de carte postale de l'Argentine. Et dans un second temps, nous parlerons de votre Alliance française. Alors de l'Argentine, on connaît bien sûr le tango, la pampa, Evita Perón et pour la classe cultivée quand même, Jorge Luis Borges. Mais on connaît beaucoup moins la situation précise de ce pays, qui est tout de même un des plus grands de l'Amérique du Sud et même un des plus grands du monde.
L'Argentine, c'est 5 fois la France déjà.
Oui.
C'est pour vous donner une idée de l'échelle, 5 fois la France, c'est-à-dire du nord de la province de Salta, qui est peut-être la province qui a encore les racines les plus indiennes, à Ushuaia, qui est ce fantasme que tous les Français ont.
Grâce à une
célèbre émission de télévision, on a un petit peu tous les paysages. Je crois que tout d'abord, l'Argentine, c'est un des derniers paradis écologiques. C'est-à-dire, vous y trouvez aussi bien des montagnes avec cette cordillère des Andes qui est quand même une des plus belles choses qu'on peut voir aujourd'hui sur notre globe, que ce soit...
Et dans les sommets, auraient quelle hauteur ? Par exemple ?
Plus de 4000 mètres, on a des sommets de plus de 4000 mètres, où on a, c'est du reste un des lieux privilégiés de l'alpinisme international. Il y a certains sommets, la Concagua, par exemple, est un des sommets les plus recherchés par les alpinistes les plus prestigieux. Mais vous avez aussi le fameux glacier Perito Moreno, un des derniers glaciers qui continue d'avancer un petit peu, ou en tout cas qui ne recule pas par rapport à tous les autres qui disparaissent. Donc vous avez cette sorte de force naturelle qui ressemble un petit peu, pour vous donner une image qui rappellera peut-être des souvenirs aux éditeurs, qui ressemble un petit peu à cette langue des Rolling Stones, toute rouge, vous savez, c'est ce symbole des Rolling Stones.
Oui,
imaginez-le
oui.
En blanc et vous avez une idée de ce que peut être le Perito Moreno, 200 km de glace qui arrive comme ça vers vous.
Un
spectacle inoubliable. Mais vous avez aussi les chutes d'Iguassou.
Célèbre
et à juste titre, partagé entre le Brésil et l'Argentine. Vous avez aussi un paradis pour tous les amoureux de la faune et de la flore. C'est encore un lieu où on voit les baleines, c'est un lieu où on voit les orques, c'est un lieu où on voit les éléphants de mer, les guanacos qui sont...
Les éléphants de mer.
Les éléphants de mer, les lions de mer, les éléphants de mer. Je crois que c'est une des grandes dernières réserves naturelles. Et puis vous avez ces chevaux, c'est un pays, le Far West. Vous avez ces gauchos, ces fameux gardiens de bétail, puisque une des caractéristiques de l'Argentine, c'est que c'est un pays agricole. Un pays
avec une excellente viande bovine.
Avec une viande effectivement inoubliable. Quand on a goûté la viande argentine, c'est vrai qu'on ne l'oublie pas. Et c'est aussi un pays donc, de matières premières. Voilà. Je crois que si on voulait compléter cette carte postale, on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'Argentine est un pays plus de matières premières que de transformation. C'est-à-dire, en matières premières, on y fait du soja, on y plante et on y cultive le soja, on y élève du bétail et on y a trouvé aussi du gaz. Voilà.
Et du pétrole,
Du pétrole aussi, mais surtout du gaz. Et donc voilà un petit peu ce portrait, c'est-à-dire dans cet écrin de paysages inoubliables, vous avez Buenos Aires, qui est ce diamant, cette ville qui a fait partie dans les années 30 des 3 grandes capitales mondiales, Paris, New York, Buenos Aires.
Oui, ville très élégante, à l'époque c'était très très élégant.
Ville qui est toujours très agréable à vivre, on y trouve autant de librairies qu'on trouve de cafés à Paris, ville cultivée, une ville qui a un amour de l'Europe et un amour de la France, une ville dont une partie de l'architecture est française, anglaise, allemande, une ville verte où il y a énormément de parcs, une ville agréable à vivre.
Oui, et encore aujourd'hui, parce que c'est une ville immense quand même.
Oui, c'est une grande ville. Enfin, c'est pas une ville immense quand vous regardez la ville de Sao Paulo, quand vous regardez la ville de Mexico ou de Bogota. C'est une grande ville, puisque on dit que l'Argentine a à peu près à 38 millions d'habitants et que 12 millions vivent dans Buenos Aires et le Grand Buenos Aires. Ça vous donne un petit peu une idée de la densité.
Il y a une forte concentration urbaine.
Il y a une grande concentration urbaine dans la province de Buenos Aires, mais la province de Buenos Aires, c'est déjà immense, si vous voulez. Et puis vous avez le Rio de la Plata, c'est une ville d'eau, c'est une ville qui a les plus grandes réserves d'eau douce au monde. Donc voilà, voilà un pays qui ne laisse pas indifférent par sa démesure, un pays qui est une sorte d'hommage à la solitude et à la réflexion qu'on peut avoir, à la vie spirituelle, parce que c'est un pays qui vous fait sentir petit, qui vous fait sentir que d'autres échelles que l'échelle humaine existent. Et je crois que en grande partie, on comprend mieux ensuite, après la richesse de la littérature argentine ou de tout, tout cet amour de la culture, justement par rapport à cette immensité.
Oui, et est-ce que ça a changé beaucoup après ce retentissant krach économique? Je crois que c'était en 2001.
Alors, on dit souvent en Argentine que les krachs se suivent les uns les autres, c'est-à-dire que malheureusement, les Argentins ont connu plusieurs expériences douloureuses à ce niveau. Mais les Argentins, vraiment, je crois que c'est un peuple qui a une force, une conviction et qui se relève toujours. Et il me semble que la dernière crise économique a mobilisé l'identité argentine à travers la culture pour sortir, pour sortir de ce pas qui était quand même, une chute vers une tragédie cruelle. Des milliers de personnes ont perdu toutes leurs économies en quelques heures.
Oui.
Quand on perd tout,
dramatique.
Comment continuer à avancer? Et les gens se sont investis complètement dans la culture, sont beaucoup sortis, ont été au théâtre, ont beaucoup lu, et ont trouvé finalement à travers la culture une sorte de sortie de secours.
Une solidarité qui s'est créée.
Pour montrer qu'ils existaient, qu'ils étaient encore vivants, quoi, qu'ils n'allaient pas se laisser abattre comme ça, même si tous les éléments étaient contre eux. Je trouve que c'est un peuple magnifique par rapport à ça. Dans un pays qui est un jeune pays, c'est moins de 200 ans. Moins de 200 ans.
Oui.
Ils nous le disent souvent. Vous avez des siècles d'histoire. Nous, on a 200 ans.
Alors, quel est ce secret, justement, en dehors des craques économiques?
Alors, je ne sais pas. Je pense que chacun peut avoir sa propre conception. Moi, je dirais que c'est un pays d'immigration.
Italienne, principalement.
Italienne et espagnole, principalement. Ensuite, française, anglaise, allemande, donc j'allais dire l'immigration traditionnelle. Je pense que tous ces gens qui sont venus, qui ont quitté l'Europe en grande majorité pour venir en Argentine, qui sont venus en famille, qui sont venus, certains, pour fuir des guerres, qui sont venus aussi pour partir à la conquête de nouvelles terres. Je crois que ces gens-là avaient une force et une conviction énorme. Et il me semble qu'il doit bien y avoir quelque chose dans cette résistance et dans cette force. Et puis il y a aujourd'hui, parce que alors ça, je vous parle des années 1900 ou 1800, de 1800 à 1830, qui sont les grandes périodes d'immigration. Et maintenant, j'allais dire qu'aujourd'hui, l'immigration, elle vient plus de l'Amérique latine. Elle vient plus du Chili, de la Bolivie, de l'Uruguay, du Paraguay. L'Argentine est en train de devenir un pays d'Amérique latine, alors qu'elle se présentait et qu'elle se visait comme la dernière ville d'Europe sur le continent sud-américain. Et je crois que, de toute façon, l'histoire va dans ce sens-là. Il n'y a plus de mouvement d'immigration qui part d'Europe vers l'Argentine. Et maintenant, j'allais dire, il y a plus un creuset régional qui est en train de se former. Parce que c'est une terre d'opportunités, l'Argentine. L'Argentine a tout pour gagner. Elle a tout. Elle a l'immensité, elle a de l'espace, elle a des richesses naturelles.
Oui.
C'est un pays en devenir. On ne peut pas le conjuguer au passé, l'Argentine. L'Argentine a toujours un futur, a toujours un avenir.
Et juste un rapide survol de l'histoire, avant de faire une première pause. Justement, vous parliez de l'origine il y a 200 ans à peu près. Comment ça s'est formé? Vous pouvez nous rappeler ça peut-être brièvement?
Eh bien écoutez, d'abord, il y a eu la conquête espagnole.
Mais la conquête, il y avait donc des indigènes.
Alors, ça, c'est aussi le grand problème. Alors, il y en avait, mais il y en avait beaucoup moins que dans d'autres pays d'Amérique latine, à cause justement de l'immensité. Il y avait effectivement des tribus indigènes plutôt nomades qui se déplaçaient beaucoup, qui étaient moins sédentaires que dans d'autres pays d'Amérique latine.
Qui étaient des Indiens?
Qui étaient des Indiens, absolument. Je pense aux Mapuches, par exemple, qui se partagent entre le Chili et l'Argentine. Donc des tribus plutôt nomades qui ont été confrontées à la vague de la conquête espagnole et qui ont été anéanties assez rapidement, mais dont on cherche maintenant à mettre en relief et l'histoire et les vestiges qu'on peut trouver. Je repense à un voyage que j'ai fait à San Luis, donc plutôt dans le nord de l'Argentine, où on me présentait la route des Incas. Vous savez, cette fameuse route qui avait été construite par les Incas et qui marquait d'une certaine manière le territoire.
Oui.
Parce que les Incas avaient eu ce merveilleux sens stratégique de ne pas vouloir conquérir, si vous voulez, les autres peuples, mais plutôt de les relier les uns les autres et en même temps de les faire participer à travers des impôts, etc.
Et de les dominer, donc autrement.
Voilà. Mais si vous voulez, sans vouloir les changer,
oui.
plutôt en les faisant participer à cet empire.
Oui. Hein.
Et donc, effectivement, j'ai eu cette chance inouïe de pouvoir, avec beaucoup d'émotion, parce que c'est forcément une émotion quand vous vous retrouvez comme ça sur une route construite par les Incas, qui a pratiquement pas bougé depuis des siècles, quoi, si oui. vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui vous donne confiance dans le genre humain et dans le génie humain.
Oui, absolument. Mais écoutez, je vous propose une première pause musicale. Après ces quelques superbes notes de flûte des Andes, nous retrouvons Yann Lorvaux, délégué général de l'Alliance française de Paris en Argentine, pour nous parler de ses expériences dans ce pays andin, justement. Oui, tout à l'heure, vous nous parliez de cette sorte d'unité des Argentins qu'ils auraient retrouvée, entre autres, après le krach et donc après une certaine solidarité entre eux. Mais entre ces énormes étendues territoriales entre le nord et le sud, les Andes jusqu'à l'océan Atlantique, est-ce qu'il y a d'autres unités dans les mentalités, dans les coutumes, ou au contraire, c'est très varié, et même dans les habitudes linguistiques ?
Oui, heureusement qu'il y a de la diversité. Heureusement que chaque région a finalement sa gastronomie, sa tradition musicale, son histoire. Alors moi, je vous en parle avec d'autant plus de facilité, c'est que pour l'anecdote, donc je vis en Argentine avec mes deux enfants qui sont au lycée franco-argentin Mermoz à Buenos Aires, qui a la caractéristique d'offrir un enseignement donc bilingue, 2 jours et demi de la semaine en français et 2 jours et demi en espagnol. Et donc je suis amené à apprendre l'histoire de l'Argentine. Et la géographie de l'Argentine.
À force de faire les devoirs avec les petits.
Voilà, en faisant réviser mes enfants. Donc, je peux vous parler pendant des heures, si vous le voulez, de la gastronomie de chaque région, puisqu'ils doivent l'apprendre. Non, il y a beaucoup de diversité. Bien évidemment, c'est un pays qui était extrêmement étendu. On a parlé de la conquête de l'Argentine aussi par les propres Argentins, hein, cette descente vers le sud. Qui était une descente, c'était la conquête du désert, hein, si vous voulez, d'une certaine manière. Même si c'était pas la Pampa, imaginez. Vous savez, parfois, quand je voyage pour visiter des alliances, pendant 3, 4, 5 heures de voiture, j'ai l'impression que la voiture est immobile et que c'est le même paysage qui défile devant mes yeux.
Ah, on voyage quand même en voiture, on ne prend pas l'avion.
Alors, d'abord, on voyage en avion, mais l'avion, c'est quand même cher. C'est cher pour les Argentins. Donc, il y a une vraie tradition du voyage en autocar. Il y a un réseau d'autobus et d'autocars qui est formidable.
Donc, un réseau routier assez...
Qui est de bonne qualité. Moi, je trouve qu'il est de bonne qualité, plutôt bien entretenu. Il y a une vraie culture du voyage en autobus. Alors, vous avez les autobus couchettes, hein, où vous dormez dedans. Comprenez que quand on fait un petit déplacement, on fait 12 heures d'autocar. Hein. Ça, c'est un petit déplacement. Les gens, il leur arrive de faire 12 heures, 15 heures, 18 heures, 20 heures d'autobus pour rejoindre la capitale. C'est un pays assez centralisé. C'est-à-dire que, par exemple, tous les vols partent de Buenos Aires vers la province. Il n'y a pas tellement de vols inter-villes. Donc, ça pose un problème, si vous voulez, quand vous voulez faire une distance de 500, 600, 1000 kilomètres.
Oui, si vous voulez vous déplacer du nord au sud, il y en a pour combien de temps ?
Alors, du nord
au sud, voiture, par exemple.
En mon avis, en voiture, pas moins de 48 heures.
Ah, pas plus. J'aurais cru...
Je dis pas moins de 48 heures.
Oui.
De 48 heures à plus. En fonction de l'état de votre voiture, de l'état du chauffeur, du temps.
Stop,
parce que vous pouvez avoir de la neige. Là, aujourd'hui, si vous allez au Ushuaïa, c'est l'hiver, là, à l'heure actuelle, hein, si vous voulez.
Oui, bien sûr.
On est au mois de juillet. On est en été en France, mais il faisait 12 degrés à Buenos Aires quand je suis parti.
Ah oui.
Assez doux, quand même.
Oui.
Il faisait moins 5. Il faisait moins 5 à Ushuaïa. Et il faisait 25 à Salta. Donc, vous voyez, c'est un pays où les climats sont différents. Et quand on dit climat, on dit donc végétation. Quand on dit végétation, on dit aussi fruits et légumes. Quand on dit ça, on dit tradition aussi alimentaire, coutumière différente.
Oui. Donc il y a une énorme variété de faune, de flore et de produits nationaux.
Voilà, alors quand même, le plat national...
Qui s'exprime aussi dans les coutumes et dans les traditions.
Moins peut-être que dans d'autres pays que j'ai connus, comme le Mexique ou comme le Pérou, par exemple. Là, vous avez quand même, si vous voulez, quel est le plat typique en Argentine? Ben, c'est l'asado, ça veut dire le barbecue, hein. C'est la viande grillée. C'est le paradis pour un Français. Vous trouvez du bon vin, du très bon vin.
De la bonne
vous
viande.
Trouvez de la bonne viande, du fromage. Vous avez des livres partout. Vous avez des gens qui aiment la France, qui sont francophones
et francophiles.
Oui.
Ils sont aussi francophones,
alors,
en grande partie.
Ils sont encore francophones. La génération des aînés a été très francophone.
L'élite qui se devait de parler français.
Oui. Alors, bon, on a eu un petit trou générationnel. Hein, et maintenant, on a un nouvel enjeu. Il y a une nouvelle loi sur l'éducation qui va être votée. Et c'est une loi nationale, hein, puisque vous savez que l'Argentine est un pays divisé en plusieurs provinces. Donc, vous avez la nation d'un côté, mais dans chaque province, vous avez des gouverneurs. Et l'éducation a été confiée à chaque province. Donc, chaque province a son... propre ministre de l'éducation, si vous voulez.
Il n'y a pas un organisme central comme l'éducation nationale en France ?
Exactement, mais qui était quand même moins puissant que ce qui était décidé en province. Donc, néanmoins, le ministre de la Nation, donc le ministre de l'éducation nationale, si vous voulez ici, est en train de travailler sur une loi qui va réintroduire une deuxième langue vivante obligatoire dans les écoles publiques, sachant que l'anglais est la première langue qui, depuis plus de 10 ans, a été imposée. La deuxième langue permettra, entre autres aux Français, mais aussi aux Portugais, mais aussi
aux Italiens,
à l'Italien, d'avoir une possibilité institutionnalisée de nouveau d'être apprise dans les écoles publiques.
Oui. Donc les rapports avec la France sont, d'après ce que j'entends, excellents.
Oui, oui, d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que, durant une période un peu plus sombre de la vie de l'Argentine, beaucoup de personnes sont exilées dans notre pays, en France, et ont enrichi le patrimoine culturel français. Des écrivains, des scientifiques, des docteurs, des artistes sont venus et font partie maintenant, j'allais dire, du patrimoine culturel français. Donc, si vous voulez, oui, il y a encore des liens forts avec l'Europe et notre pays en particulier. Et on ne se sent pas tout à fait étranger quand on est à Buenos Aires.
Ça n'a pas changé depuis les premières vagues d'immigrants européens.
Si, certainement, tout change, je ne peux pas vous dire. Mais c'est un pays qui est complexe, bien évidemment. Heureusement, chaque pays est complexe. Chaque pays demande du temps pour en comprendre et l'essence et pour en comprendre toute la finesse. Néanmoins, c'est un pays où on se sent bien tout de suite quand on est français. On a des repères, si vous voulez, qui sont plus faciles à décoder que dans d'autres pays qui impliquent soit par la langue, soit par l'histoire, soit par les traditions, soit par des codes culturels qui impliquent, j'allais dire, une posture un peu plus prudente et certainement une attention plus fine.
Mais là, dans le cas de l'Argentine, donc, les contacts sont facilités d'office quand on se présente en tant que Français et quand on parle français.
Voilà, je vous donne un exemple très simple. On se déplace beaucoup en taxi à Buenos Aires parce que c'est un moyen... de locomotion qui est très pratique. Et bien sûr, dans une ville, si vous voulez connaître un petit peu l'ambiance de la ville, rien de tel que de discuter avec un chauffeur de taxi.
Bien sûr,
dans tous les pays du monde. Hein. Rapidement, la conversation vient parce que tout de suite, la personne, le chauffeur de taxi, se rend compte que vous avez un petit accent, se rend compte que vous semblez être un peu étranger. Donc, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et vous dites que vous êtes français.
Comment vous dites en espagnol?
Et tout de suite, il vous parle de son arrière-grand-père qui est venu de France, de son cousin qui est français, de sa belle-sœur qui est en France, de son frère qui a voyagé en France. Non, soyons clairs, il est agréable pour un Français de travailler, de vivre en Argentine aujourd'hui.
C'est vrai que vous nous faites très très envie. En ce qui concerne l'Alliance française, et peut-être les affaires culturelles en général, mais vous en tant que délégué général des Alliances françaises, quelle est actuellement votre force de frappe en matière de communication? Parce que, en dépit de cet amour partagé entre la France et l'Argentine, il me semble qu'il est tout de même nécessaire de continuer à faire une communication, n'est-ce pas, sur l'enseignement du français, sur les valeurs culturelles en général.
Nous, on a fait un choix de communication qui est très simple. C'est notre site Internet. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Un, justement, parce que Internet aujourd'hui, enfin les nouvelles technologies sont quand même associées à une image de modernité. Donc c'est cette image que nous, on souhaite communiquer. D'autre part, parce que ça nous permet, en termes économiques, de concentrer nos efforts financiers sur ce portail et donc d'avoir quelque chose qui ait de l'allure, et je le dis avec beaucoup de modestie, mais on a un site qui fonctionne, qui marche bien, qui est connu. Oui. 75 000 visiteurs en 2005.
Très alors quand, respectable.
Quand je fais, par exemple, une campagne dans les abribus ou dans le métro, cette campagne renvoie systématiquement sur notre adresse Internet.
Voilà. Mmh.
Toute notre communication se fait à travers ce média.
Que, bien sûr, les auditeurs et les internautes de Canal Academy trouveront sur la page d'accueil, évidemment.
Absolument.
Votre adresse Internet. Ça va de soi.
Exactement, ça va de soi.
Oui, mais comme stratégie de communication, j'imagine que vous faites peut-être quand même de temps en temps des fêtes.
Oui, absolument. Il y a plusieurs événements qu'on essaie d'utiliser, que ce soit l'Ire en fête, que ce soit la fête de la francophonie, que ce soit le printemps des poètes, la semaine du goût. On essaie, si vous voulez, d'utiliser, bien évidemment, des événements qui sont proposés en France pour faire réagir, pour ouvrir un peu la curiosité de nos étudiants ou du public. Oui, c'est effectivement au quotidien.
Et pour rehausser en même temps un peu le prestige de la France avec tous les.
Alors, vous savez, je vais vous expliquer. Il n'y a pas besoin de le faire parce que l'Alliance française de Buenos Aires, si vous voulez, elle a 114 ans. Donc, l'Alliance française de Buenos Aires, elle appartient au patrimoine culturel argentin. Quand je suis auprès de mon ambassadeur dans un cocktail qu'il organise pour une personnalité ou pour un événement, à chaque fois, soit la personne qui est l'invité principal, soit d'autres personnes qui font partie, j'allais dire, des participants à l'événement, je trouve toujours des dizaines de personnes qui ont étudié, qui connaissent, qui vont à la médiathèque de l'Alliance française. Oui. Elle appartient aux Argentins. Je veux dire, 114 ans d'histoire, ça fait partie du patrimoine culturel argentin aujourd'hui.
Justement, je vous propose de parler un peu plus spécifiquement de votre centre de l'Alliance française, par exemple à Buenos Aires. Mais tout de suite, une autre pause musicale. Et cette fois-ci, on ne résiste pas à un tango.
Viejo Francisco, lo diga el público, en un ético voy a retirar las cuestiones de invierno, que se haga ya un supermantito, y la barra es completamente agradecida, decí la barra, muy bien.
Vous venez d'entendre un titre de Gotan Project, un fameux groupe franco-argentin. Et nous parlons toujours de l'Argentine, forcément, et plus particulièrement de l'Alliance française ou des alliances françaises dans ce pays, en compagnie du délégué général de l'Alliance française de Paris en Argentine, Monsieur Yann Lorvaux. Alors, il y a un nombre vraiment impressionnant d'alliances françaises en Argentine. Une petite centaine, me semble-t-il, disséminée à travers le pays.
Alors, il y en a au jour d'aujourd'hui 97, exactement, sur l'ensemble du pays. Et ça représente 12 500 étudiants en Argentine.
Aujourd'hui, bon an ou mal an ?
Bon an. C'est-à-dire qu'on est en croissance, si vous voulez. C'est pour ça que je me permets cette petite formule. Ça représente donc 12 500 étudiants au niveau national, dont 5 000 étudiants à Buenos Aires.
Ah oui, quasiment la moitié.
La tendance 2006, on est actuellement à plus 12% par rapport à l'année dernière. Donc ce sont plutôt des chiffres encourageants. Vous dire qu'aujourd'hui, le réseau des alliances françaises argentines est entré dans le top 10 des réseaux. On est le 10e réseau mondial. Et l'Alliance de Buenos Aires est la 10e alliance au niveau mondial par rapport au nombre d'étudiants.
Vous êtes la fierté de l'Alliance française de Paris.
Non, parce que, par exemple, ça veut dire qu'il y a 9 autres réseaux qui fonctionnent, je veux dire, mieux que la nôtre. Pour un pays en sortie de crise, c'est tout à fait honorable. Ça donne quand même aussi une idée, j'allais dire, de...
De
l'envie d'internationaliser un peu sa formation, parce qu'on a parlé du français pour la culture, mais les jeunes aujourd'hui, ils apprennent aussi le français pour le tourisme, parce que c'est un pays qui s'ouvre au tourisme. Les jeunes, ils apprennent aussi le français parce qu'on a des entreprises françaises qui s'installent. Je pourrais vous parler de Renault, de Peugeot, de Carrefour, de Total, de Sanofi Pasteur. Donc ce sont des entreprises françaises qui travaillent avec des cadres et des techniciens argentins. Donc, dans une sorte de logique d'entreprise, nous sommes amenés à nous-mêmes former une partie de leur personnel. Donc, j'allais dire, apprendre le français aujourd'hui, c'est aussi...
Une valeur ajoutée.
À s'inscrire dans cette idée de la valeur ajoutée. Mmh. Valeur ajoutée soit pour rester dans son propre pays et s'investir donc, dans le domaine du tourisme, qui est quand même un domaine en expansion, hein, que ce soit en tant que guide, restaurateur, hôtelier... Taxi, je veux dire, il y a plein de petits métiers et de grands métiers qui sont autour des langues étrangères. Moi, je fais partie des gens qui pensent que ce siècle sera le siècle des langues étrangères. Ça sera le siècle où la nécessité de parler 3 ou 4 langues sera une sorte d'évidence. Je vois, moi, mes enfants parlent déjà 3 langues. Mon fils a 11 ans, ma fille a 8 ans, ils parlent français, espagnol, anglais. Voilà.
La mondialisation a quand même ses côtés positifs aussi. Oui. Et comme il y a donc énormément de centres disséminés à travers le pays, est-ce que vous avez quand même régulièrement des réunions ? Vos contacts, comment vous les poursuivez ?
On a bien évidemment au quotidien des contacts Internet, bien évidemment. Alors au quotidien... Bien évidemment, moi et mes collaborateurs, je ne suis pas tout seul. Hein. Donc, on a des experts pédagogiques quand il y a des problèmes pédagogiques, on a des experts culturels quand il y a des problèmes culturels, on a des experts en documentation. Bon, si vous voulez, voilà, c'est un travail d'équipe avant tout. Hein. Il ne faut jamais personnaliser les choses. C'est, aujourd'hui, tout est collectif. J'allais dire, le collectif, c'est une addition. Le reste, ce n'est que de la soustraction et on doit absolument mutualiser les compétences. On a aussi des réunions annuelles. Chaque année, nous réunissons... tous les présidents des alliances françaises et tous les directeurs des alliances françaises pour 2 journées de travail. Il ne faut pas oublier que la spécificité d'une alliance française, c'est son comité, son conseil d'administration. C'est-à-dire des gens bénévoles qui, dans une ville donnée, ont décidé de donner de leur temps pour défendre les valeurs de la francophonie. Et je crois que ça, c'est ça la qualité première des alliances françaises. C'est qu'ils sont défendus par des étrangers. En Argentine, par des Argentins, au Mexique, par des Mexicains. C'est-à-dire que, finalement, ce sont eux les meilleurs ambassadeurs de la francophonie. Eux, ils restent, eux, ils aiment notre pays pour des raisons diverses et variées. Et ils font en sorte que cet amour se développe.
Oui. Mais donc, vous les réunissez et vous parlez, par exemple, projets de développement culturel ou de grands projets de manifestation, ou éventuellement aussi méthodes d'enseignement. Est-ce que vous avez les mêmes dans le Nord, le Sud?
Selon les différentes régions. Chaque alliance est autonome et indépendante, comme vous le savez. Néanmoins, quand on la réunit, on parle de communication, on parle d'opération culturelle, on parle de formation professionnelle, on parle de gestion, de comptabilité, on parle de ce que sont ces alliances françaises. Et souvent, c'est une formule qui me plaît assez, il n'y a pas de petites ou grandes alliances françaises. Il y a des petites ou grandes villes où se trouvent des alliances françaises. L'Alliance française doit être à l'échelle et à la mesure de la ville dans laquelle elle est installée. Et puis, troisième type de contact que j'ai avec, moi je me déplace beaucoup aussi sur l'ensemble du territoire pour visiter les lieux, rencontrer les conseils d'administration, travailler avec les professeurs, mais aussi rencontrer le maire de la ville, rencontrer le gouverneur de la province, rencontrer les décideurs culturels, économiques de la zone dans laquelle sont nos collègues. C'est-à-dire faire un travail, non seulement un travail de présence, mais aussi un travail d'influence. Je crois que les alliances françaises sont un maillage exceptionnel qui défendent vraiment les valeurs de notre pays, et les valeurs d'hier et d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'accepte complètement le message universaliste du siècle des Lumières, comme aujourd'hui, les nouveaux produits économiques qu'on propose, comme le TGV ou Airbus. Je veux dire, la France, elle, c'est pas uniquement est-ce qu'on ne se juge pas au passé, est-ce qu'on juge au présent, elle est dans l'avenir. Pensez à la fusée Ariane aussi, par exemple.
Oui, on cherche à présenter quand même cette vitrine technologique de la France.
Parce que c'est une réalité, tout simplement. Bien sûr. C'est quand même, moi, c'est la France dans laquelle je suis né. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui forcément m'interpelle.
Et concernant l'enseignement proprement dit, les méthodes d'enseignement, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de méthodes audiovisuelles et multimédia.
Attends, ce sont toutes des méthodes communicatives. Donc, elles sont toutes effectivement via des DVD ou des méthodes communicatives, ce qu'on appelle absolument.
Oui. Et est-ce qu'il y a des difficultés particulières qu'auraient des Argentins de langues d'origine éventuellement italienne ou espagnole? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières?
Non, puis c'est un peuple...
Ils apprennent facilement.
Plus, ce sont des gens qui sont extravertis, il n'y a pas de problème. Dans certains pays asiatiques, c'est très compliqué parce que, si vous voulez, les codes culturels font qu'on ne se touche pas, on ne se regarde pas. Ou... En Argentine, on vit en se touchant, en se regardant, en s'exclamant. C'est un pays où on vit vraiment la vie. On ne regarde pas la vie, on est dans la vie.
Oui, et pour vos élèves... Quels sont les points les plus attractifs ou au contraire les plus déroutants de la civilisation française, puisque vous enseignez également la civilisation française, l'histoire, la culture? Est-ce qu'il y a une espèce de gotha des personnalités françaises actuelles ou historiques qui emporte la palme en Argentine?
En Argentine et partout dans le
Napoléon...
monde.
Les Napoléons...
Enfin, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, la langue sans la culture, c'est comme un arbre sans racines. On n'apprend pas la langue pour la langue. Ça, ce n'est pas notre métier. Apprendre la langue pour la langue, c'est aller dans une école de langue X ou Y, peu importe la marque. Mais l'Alliance française, c'est avant tout un centre culturel. C'est-à-dire que la dimension culturelle est essentielle. Je veux dire, on est à chaque fois dans le rapport à la culture française au sens large. C'est assez aussi généralisé. La France est connue pour sa déclaration des droits de l'homme. La France est connue, comme vous le savez, pour le siècle des Lumières, comme je vous disais, pour... le code civil, bien évidemment.
C'est un point important pour les Argentins.
L'Amérique latine s'est construite en reprenant le système français, tant au niveau du code du travail, du code civil, des constitutions qui ont été mises en place. Ils sont extrêmement inspirés de la Révolution française. Enfin, je veux dire, ça, toute la Révolution bolivarienne, c'est ça avant tout. Pas oublier, San Martín, c'est ça aussi. Le message était un message... Pour simplifier et caricaturer, hein, c'est beaucoup plus fin, bien évidemment, mais porter ce message de libération des droits de l'homme et de cette organisation sociale, si vous voulez, et politique, directement issue de l'exemple français. Donc ça fonctionne énormément. Le général de Gaulle aussi, bien évidemment, tous ces symboles forts de la France. Et puis tout ce que j'essaie de vous expliquer, la littérature, bien évidemment, aussi française, les impressionnistes... Alors, Édith Piaf, les grands chanteurs français, la chanson à texte, ça reste. Mais ce qu'on développe aujourd'hui, c'est Camille, c'est Olivia Ruiz, ce sont de nouveaux programmes de promotion de la musique française, la musique à texte, Vincent Delerme, Kali. Je veux dire, c'est le cinéma français aussi qui marche et qui a toujours marché. Il y avait quelque chose qui résume assez bien la France et l'Alliance française. C'était ce clip, je ne sais pas si vous l'avez vu, le clip de l'Alliance française de Paris, qui parlait de la French Touch, pour tout ce qui concernait la mode, qui parlait aussi de la gastronomie, qui parlait des French Doctors. C'est-à-dire qu'on avait repris plein de French quelque chose pour parler en anglais de la France. Et ça parlait assez bien de que nous sommes et de comment...
Un message universel,
et de comment on nous lit.
Oui. Mais nous n'avons pas du tout parlé de vos propres manifestations culturelles ou artistiques. Est-ce que vous pouvez rapidement nous citer quelques manifestations dont vous seriez particulièrement fiers ? Je ne sais pas, dans la chanson justement, ou le cinéma, ou la littérature, ou même un événement scientifique que vous auriez présenté récemment ?
Absolument, oui, tout à fait. Et pour vous dire qu'on a une programmation culturelle qui se décline en quatre axes. Le premier axe, c'est tout ce qui est art visuel et art plastique. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est le cinéma. Oui. Le troisième axe, c'est tout ce qui est les musiques d'aujourd'hui, les musiques actuelles. Et le dernier axe, c'est le débat d'idées. Voilà, si vous voulez, on ne peut pas tout faire.
Donc, il
faut avoir certains axes et se concentrer dessus. Donc, tout nous sommes concentrés sur ça. Mmh. Alors, si je les prends rapidement, toujours dans des allers-retours, hein, parce que là aussi, si vous voulez, il y a une ligne de programmation chez nous qui est la suivante. Nous programmons énormément de jeunes artistes contemporains argentins dans nos murs.
Parce que, dans le dialogue des cultures.
Il est essentiel que nos espaces soient aussi des espaces d'ouverture et de partage. Mmh. Et du reste, notre centre a un vrai prestige et présenter un jeune artiste lui permet d'avoir une sorte de label qualité dont il peut après...
C'est une réelle promotion.
Voilà, qu'il peut utiliser après à des fins plus personnelles, voire commerciales. Donc, on présente énormément d'artistes argentins dans nos murs. Et quand on fait une exposition d'artistes français, on essaye de le faire hors les murs, dans des institutions culturelles argentines. Mmh. On est vraiment très militant dans cet aller-retour. Hein. Oui. On croit beaucoup à ce partage, on croit beaucoup à ce métissage. Dans le cinéma, le cinéma argentin est fabuleux. Le cinéma argentin d'aujourd'hui est extraordinaire. C'est certainement un des cinémas les plus actifs.
Oui, vous pouvez me citer quelques noms.
J'en ai un qui me vient à l'esprit, un film qui s'appelle El Perro, le chien, d'un jeune metteur en scène argentin, qui est passé en France. Hein, je veux dire, à l'heure actuelle, on dit que c'est en Argentine qu'il y a le plus d'étudiants qui se dédient aux études de cinéma.
Ah oui.
Au monde. C'est le pays où il y a le plus d'étudiants dans les facultés de cinéma.
Intéressant.
Voilà. Et là-dessus, dans tous les grands festivals internationaux, vous avez des films argentins qui sont primés. Alors, le chien El Perro, comme on dit en Argentine, c'est Trapero, qui est un jeune réalisateur argentin déjà très prestigieux, qui l'a fait. Donc, ce cinéma argentin est extrêmement riche et on le programme chaque semaine aussi dans notre auditorium.
Oui, oui.
En ce qui concerne le débat d'idées, là, c'est un grand axe de notre politique avec l'ambassade de France. On pense que le débat d'idées est quelque chose d'important. Alors, on a une très belle salle équipée avec des casques pour la traduction simultanée.
Avec des historiens, des philosophes,
De tout. Alors,
des sociologues.
Exactement. Les sciences humaines et sociales sont souvent à l'honneur. Des scientifiques, on a reçu Pierre Léna et son programme La main à la pâte. On a fait une exposition récemment sur l'histoire de l'enseignement des sciences à l'école, avec Pierre Léna qui est venu en personne. Alors, ce travail, on le fait en collaboration avec le service culturel de l'ambassade de France. Si vous voulez, il n'y a qu'une seule vitrine, mais on travaille tous pour que cette vitrine soit attrayante.
Oui. Et très, très riche.
Et assez riche.
Oui.
Et on a aussi tout ce qui est les musiques actuelles. On travaille beaucoup avec Culture France, anciennement AFA.
Oui.
Et son programme très, très intéressant pour les trois années à venir, qui est la promotion de toute l'offre musicale française d'aujourd'hui. C'est-à-dire les nouveaux chanteurs à texte. On en a beaucoup.
La nouvelle chanson française.
La nouvelle vague, la nouvelle génération. Et je peux vous dire que Camille, qui est venue, donc c'est la nouvelle égérie, une des nouvelles égéries de ce mouvement, a fait salle comble en Argentine. En septembre, on va donc recevoir Olivia Ruiz, qui est aussi une artiste très, très connue. On a eu Louise Attaque l'année dernière. Et
je
le
vois
public
que vous
argentin
êtes très à la page en Argentine, oui. Mais malheureusement, le temps court et nous sommes arrivés à la fin. Mais juste avant de nous séparer, est-ce que vous auriez peut-être un vœu ou un message, monsieur le délégué général de l'Alliance française de Paris en Argentine ?
D'abord, vous dire qu'on a la chance de faire un métier formidable.
Ah oui, ça s'entend.
Mais il est formidable. Pourquoi ? Parce que finalement, on apprend à aimer notre pays depuis l'extérieur.
Oui.
Parce qu'en fait, et en découvrant un autre pays, on devient à chaque fois plus amoureux de la France, finalement. Parce que, objectivement, je vais vous dire, malgré une certaine morosité ambiante qu'on nous rapporte, qu'on lit dans les journaux, la France est encore un pays où il se passe plein de belles choses. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Et je pense à beaucoup de collègues à moi qui travaillent dans des pays beaucoup plus difficiles. Hein. Je pense aux des collègues qui aujourd'hui travaillent au Liban, travaillent en Afghanistan, dans des conditions très dangereuses ou difficiles.
Ou
en Afrique, ou dans d'autres pays d'Amérique latine. Mais on apprend à redécouvrir et à aimer notre pays depuis l'étranger. La deuxième chose que je voulais dire pour conclure complètement, on a été très mobilisés, vous savez, par cette convention signée à l'UNESCO sur la diversité culturelle. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose qui nous a redonné un vrai cadre stratégique. Cette diversité culturelle, ce dialogue des cultures, il a un sens parce que je crois que c'est très jeune, dans les écoles, dans les centres culturels, qu'on arrivera à partager avec les élites de demain, avec les décideurs de demain, finalement une idée d'un monde qui sera et qui est mondialisé, bien évidemment, mais qui peut être aussi ouvert et respectueux des autres. Et je crois que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas par la soustraction qu'on doit exister, mais c'est par l'addition.
Oui.
Et que vous soyez en Argentine aujourd'hui, en Asie demain, vous découvrez des pays avec une véritable histoire, une histoire qui a sa densité, qui, comme notre histoire, a aussi ses contradictions, peut-être, mais qui a un goût et une saveur unique et particulière, dont on peut profiter à travers la littérature, la poésie, le cinéma, le théâtre, enfin, la gastronomie, tout ce que vous voulez. Mais et chaque pays, finalement, est unique et chaque pays mérite d'être découvert et apprécié. Et je crois que nous, on est, en travaillant dans des alliances françaises, on a la chance d'être au carrefour de tout ça et d'être à un moment où il y a ce frottement qui se passe. Et dans ce frottement, il y a beaucoup d'espoir qu'on arrive à construire un monde plus agréable à vivre.
Et beaucoup d'amour, finalement. En parlant de cette solidarité culturelle internationale, on peut citer justement une phrase du président de la République française qu'il a prononcée à l'UNESCO en 2002, que la culture s'imposera peu à peu comme le quatrième pilier du développement durable. Voilà, écoutez, sur ces belles idées, merci beaucoup Yann Lorvaux d'avoir participé à notre émission sur notre antenne de Canal Académie et on vous souhaite une magnifique continuation de votre mission.
Merci. À vous.
Merci à vous.